RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Margot Emmerich.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir, la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU réclame la réouverture immédiate des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom. En France, la ville de Marseille se prépare à accueillir la flamme olympique. Demain, elle doit arriver par la mer à bord du mythique Belém avant un parcours de 8 étapes dans la ville. Et puis dans notre grand format ce soir, direction l'Europe de l'Est pour la suite de notre série sur les élections européennes. Avec ce soir un zoom sur la Pologne. Mais d'abord à Gaza, l'espoir d'une trêve s'éloigne avec l'entrée des chars israéliens entre la bande de Gaza et l'Égypte. Ce matin, l'armée israélienne a pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah, quelques heures après que le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de trêve de l'Égypte et du Qatar. La manœuvre a un impact considérable sur la population puisque c'est par ce point de passage qu'arrive l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, d'autant que le point de passage de Kerem Shalom a déjà été fermé dimanche par Israël après des tirs de roquettes du Hamas. Les précisions ce soir de Suzanne Marion.
L'armée a diffusé des images où l'on voit des chars avec des drapeaux israéliens dans Rafah. Toujours selon l'armée, il s'agit d'opérations de contre-terrorisme dans des zones spécifiques de l'est de la ville. Ce n'est donc pas l'offensive d'ampleur dont menace le Premier ministre, mais les humanitaires et la population craignent cette offensive. Pour Fatima Sator, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, les conséquences seraient terribles.
On parle d'une zone qui est densément peuplé. D'après les chiffres des Nations Unies, on est à 1,5 million de personnes qui se sont déplacées sur, on considère environ 20% du territoire gazaoui. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si qu'on avait la population de Marseille sur 60 km². Mes collègues sur le terrain me racontent que par exemple des personnes viennent et essayent de trouver une petite place pour installer une tente rudimentaire. Donc une attaque sur des zones comme celle-ci entraîne vraiment des conséquences humanitaires catastrophiques. Et clairement, aujourd'hui, c'est des centaines de vies qui sont en jeu.
L'armée israélienne a aussi pris le contrôle du poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'ONU a annoncé que son aide humanitaire était bloquée par l'armée, alors même que ses équipes dans la bande de Gaza n'ont plus qu'un jour de réserve de carburant.
Et d'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, les frappes israéliennes à Rafah pourraient mettre hors d'usage la seule maternité fonctionnelle de la bande de Gaza. Dans ce contexte, le chef de l'ONU réclame la réouverture immédiate des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine a prêté serment pour son 5e mandat lors de sa cérémonie d'investiture au Kremlin. Diriger la Russie est un devoir sacré, a déclaré le président russe au pouvoir depuis près d'un quart de siècle. Et puis en Ukraine, les services de sécurité du président annonce avoir démantelé un réseau d'agents russes du FSB, soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat de Volodymyr Zelensky. En France, l'autorité de sûreté nucléaire autorise finalement la mise en service de l'EPR de Flamanville, initialement prévue en 2012. La mise en service du réacteur constitue donc une étape clé pour le lancement de la production d'électricité prévue au cours de l'été. À cette heure, la facture totale est estimée par EDF à plus de 13 milliards d'euros, soit 4 fois le devis initial. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, en poste depuis 2019, ne sera pas reconduit pour un deuxième mandat à la tête du groupe ferroviaire. Il poursuivra toutefois sa mission jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis justement, la ville de Marseille, prête à accueillir la flamme olympique. Demain, 150 000 personnes sont attendues sur le vieux port de la cité phocéenne. La flamme doit arriver par la mer, à bord du mythique Belém, où elle sera accompagnée de 1000 autres bateaux dans une parade nautique. Le tout avant un parcours de 8 étapes dans la ville, Marine Samzin.
Florent Manaudou, Jean-Pierre Papin ou encore Nicole Ferroni, ils sont 188 relayeurs à porter la flamme olympique dans Marseille. Parmi eux, Anne Gauthier, sportive amateur et vice-championne du monde de duathlon. Cette expérience représente beaucoup pour elle.
C'est effectivement d'avoir ma petite pierre à l'édifice dans l'organisation de ces Jeux. Pour moi, c'est un moment unique dans la vie, c'est un moment fort. Je fais du sport depuis toujours. Sur les Jeux, on verra beaucoup de sportifs qui sont des élites et j'ai la chance de pouvoir participer à ce grand relais. C'est beaucoup d'émotion parce que les Jeux ont eu lieu en France en 1924, ils n'auront peut-être pas lieu encore pendant un siècle. Et je me dis que vraiment j'ai la chance de ma vie et que ces quelques instants où je vais relayer cette flamme, ça sera vraiment des instants gravés dans ma mémoire.
Et la sportive en profite pour passer un message.
Moi, j'ai envie de dire à tous, mais surtout à toutes les femmes, osez bouger, osez faire du sport. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport et il n'y a pas d'âge pour performer à haut niveau.
Selon le maire de la ville, Benoît Payan, Marseille sera, au moins pour deux jours, centre du monde.
Et rendez-vous donc demain à partir de 11h dans la rade de Marseille. Allez, dans notre long format ce soir, on poursuit notre série consacrée aux élections européennes qui se déroulent dans un mois, le 9 juin prochain. Et on prend la direction de l'Europe de l'Est pour partir en Pologne avec vous, Baptiste Madinier. Bonsoir.
Bonsoir Margot, bonsoir à toutes et à tous.
La Pologne est l'un des quatre pays de l'Union européenne qui partage une frontière directe avec l'Ukraine. Politiquement, la Pologne est donc un pays en pleine effervescence.
Oui, car après 20 ans après son adhésion avec l'Union européenne, Varsovie connaît en quelque sorte une deuxième transition démocratique. À l'automne dernier, les élections ont permis le retour au pouvoir d'une coalition pro-européenne allant de la gauche démocrate à la droite modérée et libérale. Cette coalition est dirigée par un ancien président du Conseil européen, Donald Tusk. Et ces élections ont surtout marqué la fin du règne du parti conservateur, ultra-conservateur même, Droit et Justice, le PiS. Mais cette transition est compliquée. Dorota Dakowska nous explique pourquoi. Elle est spécialiste de la Pologne et professeure à Sciences Po Est.
C'est assez tendu, c'est assez compliqué, puisque le PiS avait verrouillé plusieurs institutions centrales du pouvoir, et notamment tout ce qui concerne le pouvoir judiciaire, notamment le tribunal constitutionnel que l'on appelle tribunal constitutionnel entre guillemets tellement il a été politisé par le PiS. Et donc là, il n'est pas évident de déloger des juges qui sont quand même là. Et donc il faut le faire d'une manière délicate. Il s'agit aussi de libéraliser l'accès à l'avortement qui est extrêmement restrictif en Pologne, quasiment interdit. Donc voilà, ce sont ce genre de débats, sachant que le PiS, qui est maintenant dans l'opposition, donc le Parti conservateur, est assez combatif. Il utilise maintenant les mêmes arguments que l'opposition libérale avait utilisés avant.
Alors vous l'aurez compris, même s'il a été défait dans les urnes, le PiS est toujours bien présent dans la vie politique polonaise et dans les sondages, et il va bien entendu peser sur ces élections européennes.
Et justement, Baptiste, sur quel point cette élection européenne va-t-elle se jouer en Pologne ?
Eh bien, en priorité sur la sécurité vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Pologne est l'un des quatre pays de l'Union européenne à partager une frontière avec l'Ukraine. Écoutez la journaliste Anna Kowalska, la correspondante à Paris de la télévision publique polonaise.
On ne comprend pas comment on peut voter, par exemple, contre l'envoi d'armes en Ukraine. On ne comprenait pas pendant longtemps la naïveté de l'Ouest vis-à-vis de Vladimir Poutine. On a effectivement l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus entendu. Par exemple, le commissaire européen à la défense, c'est quelque chose que Madame la présidente von der Leyen a proposé, pas encore promis, mais proposé. Et nous, on est persuadés que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Nous, on est absolument favorable à l'armée européenne parce qu'effectivement, on se sent menacé par Vladimir Poutine.
Autre thème qu'on retrouve dans le débat public polonais en vue de ces élections européennes, l'immigration, comme en France. La Pologne a récemment voté contre le pacte européen Asile et Migration. Elle s'oppose au principe de solidarité voulu par la Commission européenne et qui consiste à accueillir des réfugiés ou à payer. Jérôme Hurteau est maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine.
Il y a un certain consensus, en fait, en Pologne, sur les questions migratoires. Mmh. Il y a très globalement une méfiance à l'égard des migrations, surtout irrégulière, bien sûr. Il y a très globalement une volonté de maîtriser les flux migratoires, de ne pas participer au pacte migratoire européen et surtout sur la question de la répartition des migrants dans les différents pays européens. Donc en fait, sur cette question-là, ce n'est pas aussi polarisé qu'on le pense. Le parti au pouvoir, là, et son premier ministre Donald Tusk, pendant la campagne électorale, les législatives, avaient attaqué le PiS, non pas pour son intransigeance vis-à-vis des migrations, mais pour avoir laissé les frontières ouvertes, avoir rendu la Pologne poreuse aux migrations.
Voilà, et là encore, sur les questions migratoires, les 8 ans de pouvoir du PiS, le Parti Droit et Justice, ont laissé des traces dans la société polonaise.
Et alors Baptiste, pendant ces années du PiS, on se souvient justement des bras de fer répétés entre Bruxelles et Varsovie. Quel est le rapport des Polonais à l'Europe ?
Alors sur cette question, il y a un débat assez intéressant, assez révélateur, celui portant sur la réforme des traités européens. En novembre dernier, le Parlement européen a approuvé des propositions de réforme des traités de l'UE. C'est pas passé assez inaperçu en France, mais pas en Pologne, car cela touche à des questions de souveraineté. Explication avec Jérôme Heurteau.
Il y a, disons, un fil rouge depuis 30 ans qui est la question de la souveraineté. Il ne faut jamais oublier que 1989, ça a été certes le passage à l'économie de marché, ça a été également l'adhésion à la démocratie libérale, mais ça a été aussi un recouvrement inédit de souveraineté nationale. Et en fait, cette question de la souveraineté, elle est permanente dans le débat public depuis 30 ans. Et bien sûr que l'Union européenne, pour un certain nombre de leaders politiques, représente une entorse à la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle un parti comme le PiS se mobilise énormément autour de cette question. Et alors, évidemment, c'est décliné sur des thématiques spécifiques. Je pense par exemple à la question migratoire. On retrouve ça aussi sur la question écologique, parce que le pacte vert européen suppose des transformations structurelles. Tout à l'heure, vous avez évoqué les agriculteurs. Et là, la question agricole, la question de la souveraineté agricole de la Pologne, la question de la survie même de ce groupe social et professionnel très important en Pologne, se pose justement au moment de ces élections européennes.
Voilà, et le PiS avait entamé un véritable bras de fer à l'époque avec Bruxelles. L'UE avait même menacé de sanctions à cause des réformes judiciaires voulues par le parti nationaliste. Mais le retour donc en octobre dernier de Donald Tusk au poste de Premier ministre. Grâce à ça, l'heure est à la détente. La Commission européenne a annoncé hier la levée de cette menace, de sanctions. De plus, 20 ans après l'adhésion de la Pologne à l'UE, le sentiment pro-européen est toujours très prégnant dans le pays. Et ce, quels que soient les partis au pouvoir, il est resté très important dans tous les électorats. La guerre en Ukraine est venue renforcer ce sentiment pro-européen. La Pologne a désormais une voix qui compte en tant que partenaire stratégique.
Merci beaucoup Baptiste Madinier. Et puis en France, cette fois, le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, débattront sur France 2 avant les élections européennes le 23 mai, soit deux semaines avant le scrutin européen. Pour rappel, le camp macroniste est à l'heure actuelle crédité de seulement 16% d'intention de vote, soit deux fois moins que le parti d'extrême droite. 19h12 sur RCF. Très bonne soirée à tous.